Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
J'aimerais ouvrir un passage de la Bible et nous allons faire cette lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois de me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ils lui dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » On peut faire commencer notre réflexion avec la rencontre de Jésus avec un étonnant personnage aux questions non moins étonnantes. Il s'appelle Nicodème. Vous connaissez l'histoire, tout le monde la connaît cette histoire, Nicodème. Cet homme qui est venu de nuit pour rencontrer Jésus, de crainte finalement de perdre sa réputation, et qui va entendre de la bouche de Jésus des paroles extraordinaires, pour ne pas dire ineffables. Et cela nous est rapporté naturellement dans l'Évangile, chapitre 3 de Jean, et à travers une question qui semble finalement toute simple de cet homme à Jésus. Eh bien, le Seigneur va dévoiler ce qui est essentiel, ce qui est primordial pour être un véritable enfant de Dieu, pour devenir un disciple de Jésus-Christ, à travers une expérience qu'il ne faut jamais oublier parce qu'il ne peut pas, alors à ce moment-là, y avoir, on peut dire, de conversion, puisque c'est ce dont nous allons parler d'ici quelque temps. Et d'entendre dire à Nicodème, de s'entendre dire tout simplement, il faut que tu naisses de nouveau, tout simplement. Nicodème est l'homme qui croit savoir. C'est un docteur de la loi, un érudit, on pourrait dire même un savant, c'est un chef du peuple. Il fait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire parmi les autorités éminente du peuple d'Israël, et nous savons aussi que il exerce l'enseignement auprès de la nation du peuple de Dieu, la nation d'Israël. Et j'ai bien dit que c'est un homme qui croit savoir, mais il ne sait rien de l'essentiel. Et je pense que nous allons nous livrer à une réflexion pour mesurer de savoir où nous en sommes, aujourd'hui. Quelle est finalement, notre position? Et vous savez que l'apôtre Paul le dira dans les Corinthiens, de savoir où nous en sommes dans la foi. D'apprécier. Alors peut-être que les autres l'apprécient ou non, mais nous avons besoin de savoir où nous en sommes. Et de faire le point. Et je le disais à un instant, c'était un homme de grand savoir, mais il ne connaissait pas l'essentiel, il ne connaissait pas l'essentiel pour être sauvé. Et Jésus, et je l'ai souligné il y a un instant, c'est que connaître Dieu Et vous vous souviendrez de cette parole aussi du Seigneur dans le chapitre 17 de Jean. Eh bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Ça veut dire qu'il y a, naturellement, eh bien, une démarche de notre part qui met à plat notre vie passée, c'est-à-dire c'est la repentance. Il y a ce que nous allons voir, la conversion. Convertir, c'est changer d'avis et surtout changer de vie. Et puis naturellement, tout cela est couronné, c'est le oui de Dieu sur notre vie alors que nous avons donné notre oui par la conversion. Lui va acquiescer en nous donnant cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Dans notre texte, Jésus s'adresse à Pierre et lui dit cette parole « Quand tu seras converti ?» Alors on pourrait se dire, mais certainement qu'il a, il doit y avoir une erreur, hein. Probablement une erreur, parce que dire cela à Pierre et que Jésus dise à Pierre que quand tu seras converti, il doit probablement y avoir une difficulté quelque part, soit Jésus n'a pas forcément bien réfléchi, ou alors on ne comprend pas. Quand tu seras converti? Dans la version de ma Bible, hein, c'est, elle n'est pas particulière, elle est comme toutes les autres, il est dit quand tu seras revenu. C'est la même chose? Donc je suis pas tout seul. Et dans une autre traduction, il est dit, tout simplement, « quand tu auras fait demi-tour ». Et le mot « conversion », ça veut dire « demi-tour ». Messieurs qui avaient fait le service militaire, les dames pas encore, ça va venir. Mais toujours est-il, ça se prépare, toujours est-il qu'on a appris quelque chose, demi-tour, droite. Voilà, donc on prend tout simplement une autre direction. C'est ça la conversion. De fait, Nicodème et Pierre ont ce message en commun, c'est un appel à une expérience, ce n'est pas un credo, ce n'est pas une connaissance théologique, mais à une expérience qui les fait se retourner sur eux-mêmes. Une prise de conscience, une réalité qu'il aurait montrée par le Seigneur, qu'il aurait montrée par Dieu, à travers sa parole, une parole en direct, puisqu'ils s'adressent les uns les autres, mais pour nous, c'est sa parole, nous retourner sur nous-mêmes. On ne peut rien reprocher à Pierre. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient toujours lui dire « Si j'étais à la place de Pierre, moi j'aurais fait autrement. J'aurais marché sur les eaux sans couler. » Mais on ne peut rien lui reprocher. Parce qu'il est le disciple de la première heure, vous le savez. Il s'est donné spontanément à Jésus. Quand le Seigneur l'a appelé « Viens et suis-moi », Pierre n'a pas hésité, il n'a pas dit « Mais j'ai mes affaires, j'ai mon équipage, j'ai ma barque, j'ai mon entreprise, j'ai ma femme et mes enfants », parce qu'il était marié, je tiens à le dire quand même au passage. Non, il a été véritablement spontané. Il a tout quitté également, et durant 3 années, il a été fidèle. Il n'y a qu'à la fin où il y a eu un problème, justement, autour de la question « Quand tu seras converti ?» Il a été admirablement fidèle. Et que d'expériences, plus belles les unes que les autres, n'a-t-il pas fait auprès du maître? On s'aperçoit que Pierre est dans toutes les expéditions de l'épopée évangélique. Pendant le séjour de Jésus parmi les hommes, mais après, dans le livre des actes, on appelle le livre des actes des apôtres, mais on pourrait dire le livre des actions de Dieu. Ce serait peut-être encore beaucoup plus juste. Et on s'aperçoit qu'il est dans toutes les expéditions les plus surprenantes, les plus surnaturelles. C'est lui qui, à chaque fois, se fait le porte-parole de tous. S'il y en a un qui pose des questions, c'est lui. Quelquefois, il se fait aussi hein, rembarrer, mais bon, c'est son tempérament, c'est son caractère, c'est un homme qui est plein de vivacité, et on aime Pierre pour cela. Il assiste à des événements grandioses, inimaginables, qui finalement sont une véritable déroute pour la raison, quand il est là, au moment de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, il se trouvera également parmi les 3 privilégiés qui rentreront dans la chambre de cette jeune fille, fille de Jaïrus, que Jésus va ressusciter. Il se trouvera également, peut-être parmi d'autres, également là dans devant le tombeau de Lazare. Vous vous rendez compte des résurrections? Et lui-même plus tard sera l'objet d'une résurrection, la résurrection de Dorcas. Alors Pierre est formidable, hein. Il est extraordinaire, hein. Et on ne peut pas dire qu'il lui manque quelque chose quand on a vécu tout cela. Il se retrouve aussi sur la montagne de la Transfiguration avec Jean et Jacques. Et là, il va y avoir des paroles d'une ineffable, des paroles extraordinaires qui vont descendre du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le !» Et il se trouvera dans les moments les plus terribles. Il accompagnera à Gethsémané Jésus. Il le verra, enfin, le verra-t-il, parce qu'ils se sont endormis, les disciples. Mais par trois fois, Jésus leur dit, « Eh bien, réveillez-vous. » Mais il sera là aussi pour voir. Il sera là, il en gardera certainement un souvenir très très fort de cette agonie d'avant la croix, l'agonie morale, l'agonie de l'âme, avant celle du corps sur la croix. On sait que Jésus aussi a reçu généreusement, que Pierre a reçu généreusement Jésus dans sa maison. Et puis, il est courageux, Pierre, très courageux quand il enjambe la barque pour marcher sur les eaux. Ça, faut le faire, il n'y en a aucun autre qui l'a fait. Hein. Lui, il l'a fait. Et puis, on l'entend encore confesser sa foi quand il dit « Mais à quel autre irions-nous qu'à toi ?» Parce que tu as les paroles de la vie éternelle, on y reviendra tout à l'heure à cela. Il est partout, Pierre. Il est tellement près de Jésus. Il vit avec Jésus. Il écoute Jésus. Il est attentif. Il mange. Il dort. Il partage tout avec le Christ. Alors, on pourrait dire qu'avec de tels états de service, 3 années, à voir ce qu'il a vu, à entendre ce qu'il a entendu, Pierre se croyait très solide. Ah oui. Il se croyait vraiment quelqu'un où là, eh bien, tout pouvait passer, mais lui, il resterait. Il se croit d'une solidité. Et comme Jésus le lui a dit un jour, et peut-être il fonde son audace et son illusion sur ce que Jésus lui a dit, « Tu es Pierre ». Alors on sait ce que c'est qu'une pierre. C'est quand même solide, hein ? Ouais. Tu es Pierre. Donc il s'est dit, si je suis Pierre, si Jésus m'appelle Pierre, c'est que je dois être quand même quelqu'un, je vais tenir le coup, hein ? Pas de problème, les autres vont peut-être décrocher, mais moi je resterai. Pierre s'imaginait à ce moment-là qu'il avait la solidité d'un rocher inébranlable. Et c'est sur cette pensée que j'aimerais justement que nous avancions dans notre méditation. Des frères et des sœurs qui se croient inébranlables, qui s'imaginent que rien ne leur résistera, parce qu'ils appartiennent à Jésus, parce qu'ils connaissent bien la Bible, parce qu'ils ont la théologie pour eux, parce qu'ils ont fait des expériences, parce qu'ils ont été guéris de ceci, de cela, etc., etc. Parce que ça fait 40 ans, ça fait 50 ans qu'ils sont dans l'Église. Alors ils se disent, moi je suis comme Pierre, je m'appelle Pierre. Pierre ou Pierrette, hein. N'oubliez pas d'inconvénients. Pierre aime Jésus, c'est vrai, mais il ne l'aime pas comme il faut aimer. Parce que vous savez qu'après, Jésus lui dira par 3 fois, « Dis donc, m'aimes-tu ? » Alors Pierre, il entend cela, il dit, « Oh bah, bien sûr que je t'aime. » Je mets l'expression. Hein. 2e fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Mais Seigneur, oui, je sais que tu m'aimes. Puis même le texte de Jean nous dit, quand Jésus lui dit 3e fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Alors Jésus, alors à ce moment-là, Pierre, il est un petit peu agacé. Il se dit, mais pff, Seigneur, je ne peux pas te répondre. Et c'est bien quand on ne peut pas répondre. Parce que tant qu'on a une réponse à donner, alors à ce moment-là, on se sent fort. Quand on ne sait plus, on compte sur le Seigneur. Alors il aime Jésus et son amour lui donne l'audace. Une audace de géant, parce que c'en est un géant. Enfin, là, il est nain pour l'instant. Il n'est pas tout à fait né. Il est nain, mais il va devenir le géant que nous connaissons à partir de la Pentecôte. Et c'est bien là son problème. Et le problème de Pierre, c'est sa témérité. Alors on va voir ce que c'est que la témérité. Parce que comment doit-on la considérer ? Un défaut ou une qualité ? Sa témérité. Et cette témérité lui voile le danger et le prédispose aux grandes fautes, de la faute à la chute, eh bien, qui s'en suivra. Voyez, il y a des étapes comme ça. Souvent, on prie pour nos frères et nos sœurs qui sont faibles parce qu'on se dit ils vont chuter. Vous savez, dans la vie et dans l'observation que nous pouvons faire des hommes, quelquefois on voit des petits grands-pères et des petites grands-mères qui tremblotent, qui quelquefois sont très très incertains sur leurs pieds, mais qui tiennent bon. Et on voit quelquefois de grands gaillards parce qu'ils sont sûrs d'eux, aller dans le mur. Ça c'est vrai, hein. Alors, il y a quand même une leçon derrière tout cela, et Pierre va vivre quelque chose en raison de sa témérité. Il va commettre des grandes fautes qui vont l'amener à une grande chute. Et Jésus lui dira « Quand tu seras converti ?» Mais à propos, qu'est-ce que la témérité ? Ce qu'il faut savoir. C'est vrai, on parle de cela, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi j'ai regardé, c'est du latin « temerarius », ça vous dit quelque chose, de « témérer ». C'est une hardiesse inconsidérée, laissée au hasard. On pourrait dire au petit bonheur la chance, j'y vais, on verra bien. Essayons, et puis on se débrouillera toujours. C'est-à-dire que c'est des choses, des actions ou des paroles qui sont données avec légèreté, ou faites avec légèreté. Il y a un proverbe grec, c'est Platon, qui dit ceci, la témérité est l'exagération du courage. Moi j'aime bien, à braver inutilement les périls. L'exagération du courage à braver les périls. Alors, tu te crois, Pierre, tu te crois pierre de marbre, tu te crois pierre de granit, et en fait, Jésus veut lui dire, tu n'es que sable et boue. Alors c'est peut-être un petit peu péjoratif ce que je suis en train de dire, mais tu n'es que sable et boue. Voilà une révélation qui font les plus belles illusions de l'homme sur lui-même. Et Pierre, il a fallu qu'il l'entende. Et chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, il faudra que nous passions par cette leçon si nous n'y sommes pas déjà passés. Et peut-être qu'on y repassera, si nécessaire. Illusion de l'homme Pierre que nous avons en face dans notre texte. Et quelle humiliation pour Pierre! Et Jésus de lui dire, je paraphrase, « Pierre, apprends que tu n'es rien, sinon tout simplement un petit grain de poussière emporté par le vent. » Et c'est ce que nous sommes les uns et les autres. Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Si je le suis, ou si je suis quelque chose, un petit quelqu'un, je dois toujours me souvenir que je le suis par la grâce de mon Dieu. Que n'as-tu que tu n'aies reçu de la part de Dieu ? Ça, ça porte à la réflexion. Quand on voit tant de choses dans le monde, quand on voit tant de comportements arrogants, quand on voit tant d'attitudes même dans les églises, on se dit à ce moment-là, mais qui es-tu ? Mais que n'as-tu que tu n'as reçu de la part de Dieu ? Te vanter, te dire ceci ou cela, petit grain de poussière emporté par le vent. Vous savez que c'est une grâce que nous soyons là ce matin, mes frères et sœurs. Moi, quand je repense tout simplement comment le Seigneur m'a repêché, je dirais comme Paul, comment il m'a saisi au vol. Ben oui, je me dis, Seigneur, il y a quand même quelque chose, hein, c'est pas moi, hein, c'est toi, hein. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Seigneur, dans ta grâce, hein, qu'est-ce que tu as posé tes regards sur moi ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui ? Nous dit un psaume. Pierre n'est ni plus ni moins qu'un grain de sable, un grain de poussière, tout simplement. Nous allons citer cette parole biblique, cette parole de la Bible, en guise d'avertissement. Dans Matthieu, il est dit ceci, je lis, hein, je restitue, à moins que vous vouliez ouvrir votre Bible avec moi, c'est pas un problème. Au chapitre 16 et au verset 24, écoutez bien parce que là nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'ils me suivent, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Si quelqu'un veut être mon disciple, on peut être un croyant, on peut être un chrétien, mais être un disciple, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Il peut y avoir beaucoup de croyants et de chrétiens dans les églises, mais de disciples, de véritables disciples. Et le mot disciple vient tout simplement de celui qui écoute. Il est au pied du maître et il écoute. Et il écoute quelque chose. Il n'écoute pas des histoires. Il écoute son histoire, révélée par le Seigneur. Son histoire d'hier, son histoire d'avant, et son histoire d'aujourd'hui, et son histoire en devenir. Si j'ai bien compris la parole de Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même. Et il faut qu'il porte sa croix. Le sable humain qui doit rouler au pied de la croix. La croix était sur un rocher. Hein. Vraisemblablement, on l'appelle le lieu du crâne, Golgotha. Mais nous, les hommes, eh bien, nous sommes que ces grains de sable et nous devons rouler au pied de la croix. Dans le récit de Luc, la réponse surprenante nous attend. Écoutez bien. On l'a lu. Que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alors là, on est en pleine contradiction avec le sermon sur la montagne. Hein. On va expliquer ça. Sermon sur la montagne, et vos ennemis. Et là, Jésus dit, mais que celui qui n'a pas d'épée, eh bien, il vend ce qu'il a et puis il achète une épée. Et là, un peu plus loin, toujours dans notre texte, lu, ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et qu'est-ce que Jésus répond? Ça suffit. Il y a toute une pensée derrière tout cela. Ça suffit, cela suffit. Moi, j'aimerais vous parler de ces deux épées. Vous savez qu'une épée est un instrument de mort. En principe, à moins qu'on en fasse de la décoration, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais bon, dans le temps et dans tous les temps, et depuis Caïn, l'épée, c'est un instrument de mort. Et l'épée, c'est aussi un symbole de jugement. Dans les frontons des tribunaux, il y a soit la balance ou l'épée. Quelquefois, ce sont les deux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. La balance, la justice, l'équité, puis l'épée, eh bien, ce qui peut en ressortir de tout cela. Malheur à celui qui est reconnu coupable. Or, Pierre, désormais, selon ce que Jésus lui dit, quand tu seras converti? Pour se convertir réellement, Pierre doit connaître le tranchant de ses deux épées. Pas une, deux épées. Pour se convertir. Mais vous allez me dire, mais vous avez déjà expliqué il y a un moment qu'il a suivi Jésus. Il a été là, eh bien, tellement présent. Il a vu, il a entendu, il a vécu des choses extraordinaires. Mais il est déjà converti, Pierre. Il est converti depuis le jour où Jésus lui a dit, viens, suis-moi, laisse ta barque. Et maintenant, tu seras pécheur d'hommes. On pourrait penser qu'il était converti. Eh bien, non. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui lui dit quand tu seras converti. Et ça, c'est une réflexion très pertinente pour nous en tant que chrétiens dans ce que nous sommes aujourd'hui et de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Ces deux épées sous l'action desquelles, pour Pierre, il ne pourra pas y avoir de suite s'il ne passe pas par là. Ou alors, ça sera la stagnation de sa vie. Ou alors, il va faire du surpasse. Il sera en parking jusqu'à la fin. Vous savez qu'après son reniement, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et pour nous, c'est la même chose. Si cela nous est donné de par la parole de Dieu, c'est que pour nous, il y a aussi un avant ma conversion, avant Jésus-Christ et après quand je l'ai rencontré, mais aussi dans notre vie personnelle, il y a des étapes où il y a un avant et il y a un après. Et le Seigneur nous dit à Pierre, les pierres que nous sommes, quand il nous appelle chacun par notre nom, il nous dit, voilà, il y a deux épées. C'est, je le rappelle, symbole de la mort et du jugement. Mais il y a autre chose derrière. Et c'est ça. Et pour Pierre, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas d'apostolat, il n'y aura pas de Pentecôte, il n'y aura pas de résurrection de Dorcas, il n'y aura pas d'évangélisation du monde juif s'il ne passe pas par là. C'est essentiel et fondamental. Et moi, je voudrais dire pour vous, mes frères et mes sœurs, autant que pour moi-même, qu'il y a des étapes dans notre vie, et des étapes dans la vie de l'Église, dans la vie de Redon et de Saint-Nazaire, que dans la mesure où véritablement nous allons comprendre cet enseignement qui est déterminant et fondamental. Qu'est-ce que nous voulons? Notre frère Daniel Hébert, l'autre jour, nous a dit « Quelle Église nous voulons ?» Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à Nantes, « Quelle Église nous voulons ?» Nous voulons une Église religieuse, où nous voulons véritablement une Église qui est menée par le Saint-Esprit, et non pas par les idées que nous nous faisons, par les conceptions que nous avons, mais selon la pensée de Dieu. Parce qu'on peut se reposer très bien sur un certain confort, du formalisme, du légalisme, du libéralisme, si vous voulez, dans l'autre sens. Et de dire, eh bien, on a fonctionné comme ça, pourquoi nous ne pourrions pas fonctionner et continuer à fonctionner comme ça? Le Seigneur veut nous emmener toujours plus loin. Et ça, il faut le savoir. Et si nous voulons voir des conversions, pas des conversions, des ersasmes de conversion, des gens qui viennent sentimentalement et émotionnellement, mais que nous voulons voir des hommes se convertir, pleurer sur leurs péchés, guéris de leurs maladies, et puis tout le reste, alors il faut rentrer dans cette dimension. Il va falloir rentrer dans une autre dimension, mes frères et sœurs. Pierre, tu vas mourir. Mais parce que tu vas mourir, tu vas renaître. Pierre, tu vas mourir et tu vas revivre. Pierre, tu vas mourir et tu vas ressusciter selon ce que j'ai préparé pour toi, pour que tu sois l'homme que je veux que tu sois. Vous avez remarqué dans notre lecture au verset 31, c'est-à-dire au début de notre chapitre, il est dit ceci. Simon, Simon, Jésus appelle Simon. Il ne l'appelle pas Pierre, là. Il l'appelle Simon. C'est son nom ancien. Et il fait référence à tout ce qu'il peut y avoir du vieil homme en nous. Parce qu'il est toujours là, le vieil homme. Il n'a pas l'air de prendre des rides, Quelquefois, il est drôlement tonique. Mais il est là. Et on a martelé ces jours derniers ce que c'était que, finalement, le vieil homme et l'homme nouveau. Parce que c'est quand même écrit dans la Bible. Ce sont des enseignements sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Et moi, je crois que l'Évangile, la prédication de l'Évangile, la prédication du message de la Bible, ça ne doit pas rester à du blablabla. Excusez-moi l'expression. Ça doit aller beaucoup plus loin, il faut chercher profond. Creuse comme nous le chantons, creuse profond, et tu trouveras. L'homme de pierre, le vieil homme au cœur de pierre. La première épée doit opérer. La première épée, eh bien, nous allons la découvrir. Tournons Hébreux, chapitre 4, et verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âmes et esprits, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, elle est vivante, elle est efficace, et elle partage nos âmes, c'est-à-dire le côté du vieil homme, avec l'esprit, l'homme nouveau. Et elle révèle finalement les sentiments et les pensées des cœurs. Pierre avait besoin qu'on lui révèle ses pensées et ses sentiments. Il est dit à un moment donné dans Éphésiens, je cite simplement pour mémoire, pour compléter cette pensée, il est dit tout simplement, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand les prédicateurs ne prennent plus la peine d'ouvrir la Bible ou de prêcher, comme ils doivent prêcher, parce qu'ils sont mandatés pour ça, on peut dire que on est bientôt au terminus. Et c'est pas le terminus les étoiles. Terminus. La deuxième épée qui juge pour sauver, c'est la croix. Vous vous en souviendrez ? Marie n'a-t-elle pas été prévenue du même message de victoire de la vie sur la mort ? Quand on lui a dit, dans le temple de Jérusalem, alors qu'elle a porté son petit enfant dans les bras, n'a-t-elle pas entendu à toi-même « Une épée te transpercera l'âme ». Et qu'est-ce que voulait dire la prophétie ? Que cet enfant qu'elle portait, un jour il serait donné à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. L'épée. Et elle ressentirait, en tant que maman naturellement, ce que ça pouvait être. Pierre, je le répète, était un engagé consacré, mais il lui manquait quelque chose. Et moi je crois que, examinons-nous, je ne suis pas pour juger, je ne suis pas là pour déterminer ce que chacun peut penser en lui-même. Mais Pierre, il lui manquait quelque chose. Comme Jésus le dira au jeune homme riche pour une autre raison, il te manque encore une chose. Et peut-être que cette parole, elle peut être donnée à chacun et à chacune d'entre nous, où Dieu nous dit, tu es consacré. Tu es engagé, tu fais tout ceci, tout cela, mais moi je veux te dire, il te manque encore une chose. Il te manque dans ta vie une dimension profonde, une dimension plus grande, c'est que tu te convertisses à, là, dois-je arrêter mon message ? C'est que tu te convertisses. Que tu te retournes, que tu fasses demi-tour, non pas pour aller dans le monde, non pas pour retourner dans ta condition, mais il y a quelque chose que tu dois apprendre. Pierre l'entend de Jésus et pourtant ça fait 3 ans qu'il est avec lui. Et ce n'est pas anodin que ce soit Pierre qui soit choisi pour entendre cela. On aurait entendu cela de la bouche de Jésus à Judas, on aurait dit, bah bien sûr, un Judas, ah oui, qui tenait les cordons de la bourse, qui se convertisse, d'accord. Parce qu'il y a des péchés qui sont beaucoup plus subtils que les autres. Il y avait le péché de Judas, parce que lui, il mettait la main dans les sous des autres. Hein. Mais il y avait certainement encore un péché ou des péchés dans le cœur de Pierre, et ça ne se voyait pas. Malgré les apparences de fidélité, de tout ce que vous voulez. Il te manque quelque chose. Pourtant, je voudrais dire que nous sommes tous passés par là. Et je vous le donne à juger maintenant. Est-ce que c'est une belle confession ? Une belle confession de foi le jour de notre baptême qui fait la conversion. On en a entendu des confessions. On a baptisé quand même quelques personnes. Et je peux vous dire, ils disent tous la même chose. Sans leur laisser susurrer ce qu'ils doivent dire. Ils le disent du fond du cœur. On entend des choses formidables d'abord dans le témoignage. Et puis ensuite, quand ils sont là plongés, ils disent, ils confessent, c'est une confession de foi. Il faut que ça se fasse public. Hein. Un jour, quelqu'un est venu me voir en disant, moi je voudrais être baptisé, mais je voudrais que vous veniez à ma maison, je voudrais être baptisé dans ma baignoire, tous les deux. Oh, vous m'imaginez, c'est ce qu'on m'a fait un jour, hein, ça c'est sûr. Alors, le baptême, je voudrais le rappeler, c'est une confession publique. Hein. Il faut qu'il y en ait d'autres qui soient témoins. Alors, je répète, est-ce qu'une belle confession ? Est-ce que nos belles prières, nos belles louanges... Alors, je voudrais pas vous couper les ailes pour tout à l'heure, on va continuer à louer. Hein, vous êtes d'accord ? Parce qu'après, vous allez dire, ah bah oui, mais il a dit ça, maintenant je dis plus rien, je suis pas converti. Non, non. Mais vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça fait véritablement la conversion des belles confessions ? Bien, on va écouter. On va voir dans Jean, au chapitre 6 et au verset 60... Verset Jean, chapitre 6... Et au verset 68, il est dit ceci, c'est une belle confession, assurément, on en a parlé tout à l'heure. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ce que nous entendons, en quelque sorte, à chaque fois qu'il y a un service de baptême. Et c'est Pierre qui le dit, c'est pas les autres, c'est Pierre qui le dit. En plus, il se fait reprendre par Jésus en disant, mais où tu es, là, où t'en es rendu dans ta conversion ? Mais il y a quelque chose qui est qui ressort, c'est qu'on comprend mieux quand on écoute Pierre lorsqu'il parle de lui-même. Vous allez voir, la différence est assez subtile, c'est fin. Mais quand il parle de lui-même, et alors, quand il parle de lui-même, il dévoile qu'il lui manque ce que Jésus l'invite à devenir, c'est-à-dire un homme converti. Pierre ne dit-il pas, et vous avez les textes pour le vérifier, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort, pour toi !» On l'a lu. Et puis, il dira ailleurs, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Ça, c'est dans l'évangile de Jean. Et il ajoute, « Si tous sont scandalisés à cause de toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. » Dans Matthieu, chapitre 26. Et on trouve également encore une autre citation dans Marc. Pierre parlait de plus belle, disant, « Dussé-je mourir avec toi ? Non, je ne te renierai pas. » Vous avez remarqué, Pierre ne parle pas de Jésus, il parle de lui. Il ne fait que parler de lui. Lui, 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 et encore lui, toujours lui. Et là, ça c'est imparable. Je. Pronom personnel. Vous en souvenez? Leçon de grammaire. Dire que l'on peut mourir pour quelqu'un. Dire que l'on peut mourir pour quelque chose. Que l'on peut mourir pour quelque cause d'autre, mais mourir à soi-même. Ah, ça c'est autre chose. Vous savez, il y a que la Bible qui nous dit de mourir à soi-même. Mourir à soi-même, et tant à l'exemple de Pierre, nous parlerons que de nous, et que nous utiliserons les « je » à chaque phrase, et les « moi », nous ferons la preuve qu'il reste encore quelque chose, quelque retenue qui empêche nos progrès à servir le Seigneur et à servir nos frères, à servir dans l'Église. Vous avez remarqué au verset 32 quand il est dit « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et mes frères et mes sœurs, une chose que vous devez comprendre, de la part d'un pasteur, de la part d'un frère ancien qui prêche, de la part de n'importe qui, de quelqu'un qui a une tâche, à partir du moment où il se met en avant, à partir du moment où il occupe les couloirs de tout et de n'importe quoi, eh bien c'est qu'il lui manque quelque chose. Parce que nous ne sommes pas là à mettre notre personne en avant, mais Christ en avant. Et c'est Jean-Baptiste qui le dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors les histoires, ça suffit. Les histoires de bonhommes, les histoires d'hommes, les histoires de ceci, les histoires de cela, ça suffit. Je suis, j'ai fait, etc., etc. C'est Jésus qu'il faut prêcher. C'est Christ qu'il faut prêcher. Et à chaque fois que l'humanité, que l'homme prend le dessus, eh bien on va vers un rétrogradage, on va vers une décadence spirituelle. Jésus en premier. Dieu n'a pas besoin de nos jeux. J-E. Et il n'a pas besoin non plus de nos jeux. J-E-U-X, illusoires. Pour faire son œuvre. Pratique maintenant. Souvenons-nous de notre profession de foi le jour où nous sommes engagés, lorsqu'on nous a dit « Crois-tu que Jésus est mort pour toi, pour te sauver » Qu'est-ce que vous avez répondu ? « Non, je ne crois pas. » Non, non, on a dit « Oui, je le crois. » C'est évident, parce que quand on arrive à ce point-là, il vaut mieux aller jusqu'au bout après. On nous a posé la question « Crois-tu que tes péchés sont pardonnés ?» Oui, je crois que Jésus a pardonné mes péchés, que je suis sauvé, qu'il m'a purifié. Engages-tu ta vie durant à, eh bien là, ceci, cela, etc., etc. Et de répondre, eh bien, je me consacre à Jésus. Je veux servir Jésus. Je veux suivre Jésus. Je veux tout simplement lui rester fidèle, etc. Et on en rajoute autant qu'on veut, hein. Ce sont des confessions de foi. Elles sont belles, hein. Pierre le dira à Timothée, la belle confession de foi que tu as fait. Mais attention, ce n'est pas des paroles, c'est autre chose. Mais la question que nous pouvons nous poser en revenant à cette élément fondamental pour devenir un disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et ceci et cela. La question que nous pouvons nous poser, mais où est la mort du pécheur repentant? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des conversions sans repentance. On fait rentrer quelquefois dans nos églises des gens qui ne sont même pas repentis. Ils adhèrent à un système. Ils épousent, oui, quelque chose qui leur fait plaisir. Parce qu'ils se disent, ici, il y a ceci, il y a cela, il y a de la musique, il y a des gens sympathiques, etc. On fait des agapes fraternelles. Et puis, on a des sorties, on a toutes sortes de choses. Eh bien, m'excuserai, mais l'église, c'est pas un lieu culturel, c'est un lieu cultuel. Et là, faut pas se mélanger dans les mots, hein. Il n'y a pas une grande différence. Mais elle est énorme, la différence, dans l'esprit et dans les activités. Alors, où est la mort du pécheur repentant? Est-ce qu'une belle liturgie fait une belle conversion? Alors, Pierre dit, et je dis, je me consacre, je veux obéir, je veux le servir, je lui resterai fidèle. On croirait entendre Pierre, hein? Je. La vraie conversion n'est pas ce que nous déclamons. Béni soit le Seigneur lorsque nous avons entendu des conversions et des professions de foi extraordinaires et que nous avons suivi les gens pendant 30 ans, pendant 40 ans et encore plus. On se dit, ils ont été fidèles, c'est formidable. Ce qu'ils ont dit, ils l'ont vécu. Mais malheureusement, c'est un peu le filet jeté dans la mer. On ramène toutes sortes de poissons et puis quand on fait le tri, on s'aperçoit qu'à la fin, il n'en reste pas beaucoup. Hein. C'est terrible cela parce que c'est pas de faire du nombre, c'est de faire des hommes et des femmes de qualité pour Jésus-Christ. Alors, la vraie conversion, c'est pas ce que nous déclamons, mais c'est ce que nous sommes vraiment. Et on est remis encore devant l'évidence ce matin, mes frères et sœurs, entre le paraître et l'être. Je peux dire je suis, mais si je le suis réellement. Et non pas laisser une image à mes frères, à mes sœurs et au monde qui n'est pas la réalité de ce que je suis. Parce qu'à ce moment-là, nous ne serons pas vraiment des acteurs. Vous savez, il y a une différence entre un comédien et un acteur, hein. Nous ne serons pas des acteurs dans le plan de Dieu, dans l'aventure de Dieu. Nous ne serons que des comédiens. Et on ne veut pas être des comédiens. Le Seigneur ne nous a pas amenés à jouer la comédie. Il nous a amenés tout simplement à être ce que nous devons être et à le suivre. Et à être surtout comme lui est. La conclusion se fera par un retour sur les deux épées. Si la parole de Dieu que je crois, première épée. Et si la croix, deuxième, qui me fait renaître, eh bien, Jésus d'ajouter, cela suffit? Est-ce que nous avons besoin d'autre chose, frères et sœurs, pour nous convertir? La parole de Dieu que je crois, et la croix qui va faire son œuvre. Je suis prêt à accepter la parole de Dieu et de dire Amen. Quant à la croix, c'est peut-être notre paire de manches. Excusez-moi l'expression, hein, je parle comme ça. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Seigneur, Amen à ta parole. Ah oui, on est tous en train de le dire, hein, ça c'est sûr. Mais la croix, oh Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal, parce qu'il y a des choses, et il y a des choses dans ma vie que j'aimerais bien garder. Il y a des choses que je voudrais vivre encore, il y a des choses que je voudrais bien exploiter. Et Jésus nous dit, ça suffit. Là où Pierre s'est trompé, et je termine, c'est quand il a répondu à la question inquisitoire de la servante lors de l'arrestation de son maître dans la cour du souverain sacrificateur. Vous vous souvenez? Là, il s'est trompé. Et qui entraînait tout le reste. Ça fait boule de neige. Ce qu'il a dit à ce moment-là l'a trahi. À trois reprises et avec serment, c'est une confession de foi, encore une autre. Il dira, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne connais pas cet homme. Alors là, Pierre s'est trompé. Pour une bonne raison. Mais au fait, j'ajoute ceci. Pierre n'aurait-il pas pu dire, plutôt, je ne me connais pas moi-même. Mon frère et ma sœur, connais-toi toi-même. Parce que nous connaissons bien les autres pour relever leurs fautes, leurs erreurs, parfois tout ce qui nous déplaît, mais quelquefois le Seigneur nous dit, mais dis donc, j'ai raconté un jour une petite histoire elle se fait avec une poutre et une paille. Vous connaissez ? J'en dirai pas plus. Parce que là, nous tombons dans quelque chose de profondément mauvais. Et quand Jésus a dit « Je ne connais pas cet... » Quand Pierre a dit « Je ne connais pas cet homme », il aurait fallu qu'il dise « Mais je ne le connais pas moi-même. » Alors, mon frère, ma sœur, toi qui juges, fais attention que le Seigneur te dise pas à un moment donné quand tu seras converti. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, et moi je crois qu'il y a de l'espoir avec le Seigneur, même ceux qui quelquefois sont très réfractaires. Et parce qu'avec le Seigneur, je fais prévaloir la grâce sur le jugement. Et quelque part, ce que Pierre aurait pu dire, je ne me connais pas moi-même. Il va se connaître lui-même, il faut que les pleurs viennent dans ses yeux. Vous connaissez quand Jésus va porter un regard furtif. Quand il le croisera là, dans cette cour de ce tribunal, et là, à ce moment-là, il va falloir qu'il pleure amèrement. Et vous savez la conversion, c'est pas ça ? Pleurer amèrement ? Alors on se dit, je me suis converti il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ceci, cela, etc., etc. Mais peut-être Dieu pourrait nous dire, mais pleure encore, hein ? Parce qu'il y a des choses qui se sont endurcies en toi, qui se sont calcifiées. Et finalement, tu dis, mais les autres, les autres, les autres, les autres. Et Dieu lui dit, non, tu ne te connais pas toi-même, toi. Pierre parle trop de lui-même. Et sans le savoir, ce qu'il est vraiment, ce qui lui aurait évité de sombrer dans le reniement et la trahison. Il y a une question que soulève notre texte ce matin. Qui suis-je ? Où est-ce que j'en suis ? Plutôt. Je ne dis pas ça pour culpabiliser personne. Je dis ça parce que j'avais préparé un autre message, figurez-vous, que je voulais vous donner ce matin. Puis le Seigneur m'a dit, hier, tu changes tout. Alors quelquefois, c'est au dernier moment, hein, c'est quelquefois même juste avant de monter sur l'estrade que le Seigneur me demande de changer tout. Mais là, il m'a dit, tu changes tout. Et puis tu prépares, tu médites la parole et tu prépares un autre message. Voilà. On verra peut-être la suite la semaine prochaine, ce que je voulais vous donner. Mais toujours est-il que là, il nous interpelle. Et vous savez, quand on se pose la question « qui suis-je ?», au lieu de dire « moi, je sais tout », etc., c'est vraiment une preuve d'humilité et que le Seigneur est en train de faire une œuvre comme il est lui-même. « Je suis doux et humble de cœur. » Il faut qu'on en finisse avec les jugements, frères et sœurs. Ouais. C'était un mal considérable dans toutes les églises et c'était véritablement une retenue inimaginable. Alors que l'on prie, paradoxalement, pour avoir un réveil. Et que finalement, on est en train de faire du surplace. À cause du jugement. On ne peut répondre à l'appel. Être consacré, fidèle. Servir et suivre. Et aller jusqu'au bout que dans la mesure où nous laissons l'épée de la croix nous révéler à nous-mêmes et changer nos cœurs. Quand tu seras converti, affermis tes frères, car j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point, ou d'une autre façon, une autre traduction, afin que tu ne perdes pas la foi. Vous savez que Pierre a été à deux doigts de perdre la foi ? Parce que son collègue Judas, sa foi s'est retrouvée sur une branche d'arbre, hein. Faut-il la révélation sur nous-mêmes, de nous-mêmes, pour devenir un homme nouveau ? Je termine par une dernière citation dans la Bible, qui en dit long. On a parlé de Pierre, mais je voudrais vous parler, pas plus d'une minute, de Moïse. Il a fait l'expérience d'une véritable conversion, Moïse. D'une véritable prise de conscience de lui-même. Moïse, c'était pas n'importe qui, hein, c'était le Pierre de l'Ancien Testament, on peut dire ça. Un homme extraordinaire. Et pourtant, l'Éternel lui dit, « Mets ta main dans ton sein. » Vous connaissez le texte ? Exode, chapitre 4. « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était ouverte de lèpre, blanche comme la neige. Vous savez que la lèpre, c'est l'emblème dans la Bible du péché. Même si c'est blanc, c'est noir. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue pure. Elle était redevenue comme sa chair. C'est pas l'image du miracle que Dieu est capable de faire avec nous? Alors mon frère et ma sœur, moi-même, mets donc ta main sur ton sein, sur ta poitrine, tu la regardes et tu vas voir ce que tu vas voir. Et si tu restes là-dessus, et que tu demandes la grâce de Dieu pour qu'il se change et transforme, le Seigneur te dira, remets ta main, et il te dira, regarde maintenant, tu es purifié à cause, non pas de toi, mais à cause de mon sacrifice, de mon sang, à cause de la croix. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci Seigneur, parce que nous voulons être conduits par l'Esprit. Nous ne voulons pas faire du surplace. Nous ne voulons pas être là, Seigneur, des êtres latents. Ou tout simplement, Seigneur, à nous satisfaire de nous-mêmes, à nous conforter en nous-mêmes, à nous faire plaisir nous-mêmes en disant qu'est-ce que nous sommes bien. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous attires à toi par amour. Et, Seigneur, ce n'est certainement pas pour nous condamner et nous juger, mais c'est tout simplement pour que nous puissions être transformés et changés. Merci pour l'histoire de Pierre, parce que Pierre est un personnage qui nous plaît. C'est un homme fort. C'est un homme qui va de l'avant. C'est un homme qui est capable de faire beaucoup de choses. C'est un homme qui nous en remontre. Et puis, on voit très facilement que ce n'est pas un roc, ce n'est pas du granit, ce n'est pas du marbre, Pierre. C'est tout simplement des grains de sable, comme nous d'ailleurs. Alors Seigneur, je te demande ton secours et ton aide. Visite mes frères et mes sœurs. Visite nos églises qui sont malades, malades d'elles-mêmes, malades de ne pas se connaître, chacun d'entre nous malade des illusions que nous pouvons nous faire. Seigneur, dans le nom de Jésus, si nous avons à mourir, nous avons à mourir au moins pour une première chose, mourir à nous-mêmes et mourir de nos illusions. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Oui, que ta vie, que ton souffle, maintenant, descende sur nous. Visite-nous et donne-nous véritablement, Seigneur, d'être des hommes qui sachons faire demi-tour et de revenir vers toi, Seigneur, pour une vie nouvelle. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous as appelés de la mort à passer à la vie. Merci, Jésus. Bénis tes enfants. Amen.